il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise.
Le débat politico-national, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on dit aux Toulousaines et aux Toulousains.
C'est qu'il y a une volonté dans le peuple toulousain de changer d'air.
On a bien bossé, on a fait un an et demi de campagne.
On se connaît avec Madame Chikirou. D'abord, je n'ai pas le souvenir qu'elle m'ait appelé pendant la campagne, si ce n'est m'insulter.
Je n'ai jamais invectivé Emmanuel Grégoire.
Et je suis convaincu qu'un très grand nombre des électeurs de Pierre-Yves Bonnazel vont se sentir ce soir trahis.
Le Parti socialiste se refuse à tout accord national avec la France insoumise. Mais sur le terrain, loin des excès de langage et des imprécations, des alliances se nouent avec des candidats insoumis apaisés. C'est le sommaire de ce Pôle Express numéro 183. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Malgré le suspense qui entoure le second tour à Marseille, Toulouse, Paris, Lyon ou Lille, ces élections municipales sont celles qui ont le moins passionné les Français depuis l'avènement de la Ve République. Certes, avec une participation qui atteint 56% des inscrits, ce scrutin enregistre un taux bien supérieur au précédent, celui de 2020. On était alors en pleine crise sanitaire. La participation avait péniblement atteint 44,66%. Mais rapportée à une élection s'étant déroulée dans des conditions normales, celle de 2014, la participation est inférieure de 7,5 points. Cette désaffection s'accompagne d'une fragmentation record, une vague de triangulaires, quadrangulaires et même quinquangulaires vont épicer le second tour de cette consultation. Alors même que dans 32 000 des 35 000 communes, le maire a été élu au premier tour. À l'évidence, l'absence de majorité parlementaire est descendue d'un étage. Cette fois, l'éparpillement est territorial, ce qui rend crucial la question des alliances, d'autant que la France insoumise, à la différence de 2020, s'est investie dans le scrutin. Une percée inattendue, ont souligné la plupart des observateurs. Percée, oui. Inattendu ? Non. Il suffisait de jeter un œil sur la trajectoire des résultats à Saint-Denis, Toulouse, Limoges ou Roubaix pour se rendre compte que Jean-Luc Mélenchon avait enregistré ses meilleurs scores dans ces villes en 2022. Fort logiquement, la dynamique impulsée alors se concrétise aujourd'hui à l'échelon local. Si l'on était taquin, mais ce n'est pas notre genre, vous le savez bien, on dirait même que la France insoumise, en comparaison, recule. Si, si, à Saint-Denis, Bali Bagayoko, le candidat insoumis, a été élu au premier tour avec 50,77% des voix. Jean-Luc Mélenchon a recueilli plus de 61% des suffrages. À Toulouse, François Pitmal, qui obtient 27,56% des voix, fait moins que le candidat de son mouvement à la présidentielle. Celui-ci avait obtenu près de 10 points de plus. À Limoges encore, Damien Maudet, qui devance la liste socialiste de 8 points, fait moins bien que Jean-Luc Mélenchon en 2022. 24,23% contre 30% pour le chef de file de LFI. Mais un score suffisant pour que la liste socialiste se résigne à signer un accord ce lundi. C'est à Roubaix que l'écart est le plus faible. David Guiraud obtient 46,64% des suffrages, soit à peine 6 points de moins que Jean-Luc Mélenchon en 2022.
On a bien bossé, on a fait un an et demi de campagne. Voilà, c'est une campagne hors norme, hein. Un an et demi de campagne, je dois être un des premiers candidats déclarés au municipal en France. Mais c'est la preuve aussi que cette stratégie elle était gagnante et qu'il fallait le faire.
Bref, les graines de ces résultats électoraux étaient déjà semées voici 4 ans. Et ceux qui ont cultivé leur parcelle en ont recueilli les fruits. Ces scores élevés rendent délicats les accords entre les frères ennemis de la gauche. Officiellement, le divorce est consommé.
À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise.
Dans les faits, les accords se font à la tête du client. À Toulouse, François Pitmal ne s'est jamais abandonné à l'outrance, ce qui a permis qu'il s'entende avec François Briançon, le tête de liste PS arrivé derrière lui.
Je pense que l'important qu'il y a à noter, c'est au-delà du score des uns et des autres. C'est qu'il y a une volonté dans le peuple toulousain de changer d'air que celle que l'on vit avec M. Moudenc et que massivement, ils ont plébiscité deux listes, celle de François Briançon et celle que je portais demain à Toulouse.
Vous avez eu Olivier Faure au téléphone, c'est ça?
Oui, je l'ai informé. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je le dis aux Toulousaines et aux Toulousains. L'important, c'est de créer les conditions du rassemblement. Moi, j'ai pris mes responsabilités, je l'ai fait. Le débat politique national, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on dit aux Toulousaines et aux Toulousains et comment on gagne dimanche prochain.
Mais avec les grandes gueules, Sébastien Delogu à Marseille et Sophia Chikirou à Paris, tout accord est impossible. Le socialiste Benoît Payan, qui termine en tête du premier tour avec 36,68%, repousse tout arrangement avec Sébastien Delogu.
J'ai vu que hier soir, il m'avait tendu la main. Vous voyez, cette main tendue. Pendant toute la campagne, il l'a fermée et il m'a mis des coups avec. Il a laissé l'image de quelqu'un qui ne s'est battu que contre moi. Il n'y a pas eu un mot contre le Rassemblement national. Pas un mot contre la droite et il a passé sa campagne à me dénigrer.
Quant à Emmanuel Grégoire, le candidat du PS à Paris, il a choisi de renvoyer Sophia Chikirou à ses responsabilités. Veut-elle la victoire de la liste qui l'anime ou bien celle de Rachida Dati?
Sophia Chikirou attend votre appel. Est-ce que vous allez décrocher votre téléphone? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne son numéro?
Non, mais on se connaît avec Madame Chikirou. D'abord, je n'ai pas le souvenir qu'elle m'ait appelé pendant la campagne, si ce n'est... m'insulter. Nous, l'enjeu du dimanche prochain, il est simple, hein, c'est que il va falloir choisir entre notre union ou Rachida Dati. Ce sera Emmanuel Grégoire ou Rachida Dati, le maire. Et donc voilà, c'est l'enjeu de mobilisation et que tous ceux qui préfèrent que Paris reste à gauche et qui veulent que Rachida Dati ne puisse pas être maire, eh ben, il n'y a qu'un bulletin pour cela, c'est la liste de l'Union de la gauche et des écologistes qui porte mon nom.
Je n'ai jamais invectivé Emmanuel Grégoire. Ensuite, vous dites, vous avez passé des semaines à changer de stratégie, c'est faux. La France insoumise dit depuis des semaines qu'elle tendra la main pour une fusion de deuxième tour. Et j'ai moi-même dit à plusieurs reprises, si je suis en tête à Paris, je tendrai la main à Emmanuel Grégoire. Et c'est ce que j'ai fait dimanche soir, alors que je n'étais pas en tête.
Mais la dimension psychologique n'est qu'une partie de l'explication du divorce. Le socialiste parisien et son homologue marseillais estiment surtout qu'ils n'ont pas besoin d'un accord avec LFI pour l'emporter. L'arithmétique électorale semble leur donner raison. Même avec le renfort des voix du candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel, Rachida Dati restera derrière Emmanuel Grégoire.
Arithmétiquement, ça ne suffit pas à nous mettre en difficulté. Et je suis convaincu qu'un très grand nombre des électeurs de Pierre-Yves Bournazel vont se sentir ce soir trahis. Quand on a quelqu'un en qui on a placé sa confiance, qui a passé son temps à dire les mots les plus durs sur Rachida Dati, qui se range en quelques minutes pour un plat de lentilles, je pense que c'est ces électeurs qui vont d'abord être déçus et je suis convaincu qu'un grand nombre d'entre eux viendront vers nous.
À Marseille, Martine Vassal, la candidate des LR, a choisi de se maintenir au second tour. Franck Alizio, le candidat du RN, arrivé en deuxième position, ne peut donc plus compter sur un éventuel renfort de voix. Enfin, dernière explication, l'accord proposé par LFI est un marché de dupes. La fusion technique vantée par Manuel Bompard sur tous les plateaux prévoit que les insoumis, une fois élus, forment leur propre groupe et soient dispensés de toute allégeance à l'égard du maire. Pas question par exemple de voter le budget. C'est un peu cher payé, d'autant qu'il n'est pas certain qu'un accord se traduise par un gain de voix, aussi bien du côté des électeurs socialistes que des électeurs insoumis. Nombreux sont ceux qui répugneront à voter pour un adversaire diabolisé pendant des mois. Quand on en est à s'accuser de traîtrise ou d'antisémitisme, ça laisse forcément des traces. Certains choisissent cependant de s'affranchir des polémiques récentes. C'est le cas de la maire sortante de Nantes, la socialiste Johanna Roland, qui, à la tête d'une liste d'union, n'a recueilli que 35,24% des voix. Talonnée par la liste du candidat LR, Foulque Chombard de Love, elle a conclu une fusion démocratique avec la liste du candidat LFI, William Aucamp, qui a recueilli un peu plus de 11% des suffrages. Un choix qui sera commenté. Johanna Roland est en effet première secrétaire déléguée du Parti Socialiste. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, il y a Lille. Le maire sortant, le socialiste Arnaud Deslandes, ne devance que de 3 petits points la candidate insoumise, Laouaria Hadouche. Arrivé en troisième position, l'écologiste Stéphane Bally a annoncé en fin de journée qu'il fusionnait sa liste avec celle du maire sortant. Et à Brest, le maire socialiste a trouvé un terrain d'entente avec la France insoumise. Le grand mérite de ces élections municipales est de remettre à l'heure les pendules de la gauche. Les 22% de Jean-Luc Mélenchon appartiennent désormais à l'histoire, tout comme le score ridicule d'Anne Hidalgo à la même présidentielle. Ceux qui avaient enterré le Parti socialiste se sont plantés, comme tous ceux qui annonçaient les obsèques prochaines de la France insoumise. Les électeurs ont décidé qu'il y aurait deux gauches et qu'elles devraient vivre ensemble. Au-delà, si Emmanuel Grégoire et Benoît Payan parviennent à se faire élire sans avoir conclu le moindre accord avec la France insoumise, alors la campagne présidentielle qui va s'ouvrir en sera bousculée. L'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche aura vécu. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, mettez un pouce et partagez-la. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. Pour nous soutenir, c'est sur Donorbox que ça se passe. Vos dons constituent l'essentiel de nos ressources. Les recettes publicitaires mettent juste un peu de beurre dans les épinards. Merci encore à tous ceux qui nous accompagnent semaine après semaine. On se retrouve jeudi pour un nouveau Pôle Express.